Voltaire, dictionnaire philosophique, langue, génie des langues. On appelle génie d'une langue son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce que les autres langages expriment moins heureusement. Le latin, par exemple, est plus propre au style lapidaire que les langues modernes, à cause de leurs verbes auxiliaires qui allongent une inscription et qui l'énervent. Le grec, par son mélange mélodieux de voyelles et de consonnes, est plus favorable à la musique que l'allemand et le hollandais. L'italien, par des voyelles beaucoup plus répétées, sert peut-être encore mieux la musique efféminée. Le latin et le grec étant les seules langues qui aient une vraie quantité, sont plus faites pour la poésie que toutes les autres langues du monde. Le français, par la marche naturelle de toutes ses constructions, et aussi par sa prosodie, est plus propre qu'aucune autre à la conversation. Les étrangers, par cette raison même, entendent plus aisément les livres français que ceux des autres peuples. Ils aiment dans les livres philosophiques français une clarté de style qu'ils trouvent ailleurs assez rarement. C'est ce qui a donné, enfin, la préférence aux Français sur la langue italienne même, qui, par ses ouvrages immortels du XVIe siècle, était en possession de dominer dans l'Europe. L'auteur du « Mécanisme du langage » pense dépouiller le français de cet ordre même et de cette clarté qui fait son principal avantage. Il va jusqu'à citer des auteurs peu accrédités, et même plus, pour faire croire que les inversions du latin sont naturelles, et que c'est la construction naturelle du français qui est forcée. Il rapporte cet exemple tiré de la manière d'étudier les langues. Bon, je n'ai jamais lu ce livre, mais voici l'exemple. Goliatum proceritatis inusitatae, virum David adolescens in pacto ineus frontem lapide postravit, et allophilum cum inermis puerset ei detracto gladio confecit. Traduction. Le jeune David renversa d'un coup de fronde au milieu du front Goliath, homme d'une taille prodigieuse, et tua cet étranger avec son propre sabre, qui lui arracha, car David était un enfant désarmé. Premièrement, j'avouerai que je ne connais guère de plus plat latin, ni de plus plat français, ni d'exemple plus mal choisi. Pourquoi écrire dans la langue de Cicéron un morceau d'histoire judaïque et ne pas prendre quelques phrases de Cicéron même, pour exemple? Pourquoi me faire de ce géant Goliath un Goliathum? Ce Goliathus était, dit-il, d'une grandeur inusitée, proceritatis inusitatae. On ne dit inusité en aucun pays que des choses d'usage qui dépendent des hommes. Une phrase inusitée, une cérémonie inusitée, un ornement inusité, mais pour une taille inusitée, comme si Goliathus était mis ce jour-là une taille plus haute qu'à l'ordinaire, cela me paraît fort inusité. Cicéron dit à Quintus son frère, « Absurdae et inusitate scriptae epistolae ». Ces lettres sont absurdes et d'un style inusité. N'est-ce pas là le cas de plus ? Ineius frontem. Titlive et Tacite aurait-il mis ce froid eius? N'aurait-il pas dit simplement in frontem? Que veut dire in pacto lapide? Cela n'explique pas un coup de foudre. Et allophilum cum puer inermis esset. Voilà une plaisante antithèse. Il renversa l'étranger, quoiqu'il fût désarmé. Étranger et désarmé ne font-ils pas une belle opposition? Et de plus, dans cette phrase, lequel des deux était désarmé? Il y a quelque apparence que c'était Goliath, puisque le petit David le tua si aisément. Puer ne désigne pas assez clairement David. Le géant pouvait être aussi jeune que lui. Je n'examine point comment on renverse avec un petit caillou lancé au front de bas en haut un guerrier dont le front est armé d'un casque. Je me borne au latin de pluche. Le français ne vaut guère mieux que le latin. Voici comme un jeune écolier vient de le refaire. David, à peine dans son adolescence, sans autres armes qu'une simple fronde, renverse le géant d'Ogliane d'un coup de pierre au milieu du front, lui arrache son épée, lui coupe la tête de son propre glaive. Ensuite, pour nous convaincre de l'obscurité de la langue française et du renversement qu'elle fait des idées, on nous cite les paralogismes de Pluche. Dans la marche que l'on fait prendre à la France française, on renverse entièrement l'ordre des choses qu'on y rapporte. Et pour avoir égard au génie, ou plutôt à la pauvreté de nos langues vulgaires, on met en pièce le tableau de la nature. Dans le français, le jeune homme renverse avant qu'on sache qu'il y ait quelqu'un à renverser. Le grand Goliath est déjà par terre, qu'il n'a encore été fait aucune mention ni de la fronde, ni de la pierre qui a fait le coup. Et ce n'est qu'après ce que l'étranger a la tête coupée que le jeune homme trouve une épée au lieu de fronde pour l'achever. Ceci nous conduit à une vérité fort remarquable, que c'est se tromper de croire, comme on fait, qu'il y ait inversion ou renversement dans la phrase des anciens, tandis que c'est réellement dans notre langue moderne qu'est le désordre. Eh bien, je vois ici tout le contraire. Et de plus, je vois dans chaque partie de la phrase française un sens achevé, qui me fait attendre un nouveau sens, une nouvelle action. Si je dis, comme dans le latin, Goliath, homme d'une prosérité inusitée, l'adolescent David, je ne vois là qu'un géant, qu'un enfant, point de commencement d'action. Peut-être que l'enfant prit le géant de lui abattre des noix, peu m'importe. Mais David à peine dans son adolescence, sans autres armes qu'une simple fronde, voilà déjà un sens complet, voilà un enfant avec une fronde. Qu'en va-t-il faire? Il renverse. Qui? Un géant? Comment? En l'atteignant au front, il lui arrache son grand sabre. Pourquoi? Pour couper la tête du géant? Y a-t-il une gradation plus marquée? Mais ce n'était pas de tels exemples que l'auteur du Mécanisme du langage devait proposer. Que leur apportait-il de beaux vers de Racine? Que n'en comparait-il la syntaxe naturelle avec les inversions admises dans toutes nos anciennes poésies? Jusqu'ici, la fortune et la victoire même cachaient mes cheveux blancs sous 30 diadèmes, mais ce temps-là n'est plus. Mithridate, acte 3, scène 5. Transposer les termes selon le génie latin à la manière de Ronsard. Sous diadème, 30 cachaient mes cheveux blancs. Fortune et victoire même, plus n'est ce temps heureux. C'est ainsi que nous écrivions autrefois. Il n'aurait tenu qu'à nous de continuer. Mais nous avons senti que cette construction ne convenait pas au génie de notre langue, qu'il faut toujours consulter. Ce génie, qui est celui du dialogue, triomphe dans la tragédie et dans la comédie, qui n'est qu'un dialogue continuel. Il plaît dans tout ce qui demande de la naïveté, de l'agrément, dans l'art de narrer, d'expliquer, etc. Il s'accommode peut-être assez peu de l'ode, qui demande, dit-on, une espèce d'ivresse et de désordre, et qui autrefois exigeait de la musique. Quoi qu'il en soit, connaissez bien le génie de votre langue. Et si vous avez du génie, mêlez-vous peu des langues étrangères, et surtout des orientales, à moins que vous n'ayez vécu 30 ans dans Alep.